Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Les Français continuent à consommer de la viande, oui, mais autrement. Notre invité Bertrand Marty est un boucher renommé de la place toulousaine. Il est installé notamment dans une des loges du marché Victor Hugo, dans le centre de Toulouse. C'est un jeune professionnel, vous allez l'entendre, qui a su bousculer le secteur de la boucherie. Pardonnez-moi pour ce jeu de mots, les bouchers semblent reprendre du poil de la bête. Bonjour Bertrand Marty.
Bonjour à vous.
Vous faites partie, Bertrand, de cette nouvelle génération de bouchers, on peut le dire, vous avez 29 ans.
Oui, c'est ça, tout à fait, 29 ans.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire être boucher aujourd'hui ?
Bonne question. boucher aujourd'hui, pour moi, véritablement un vrai boucher, c'est déjà des personnes qui travaillent les bêtes entières.
Ouais.
Ce qui n'est pas souvent le cas aujourd'hui, c'est que souvent les bouchers achètent pièce par pièce et non la bête entière.
Ils achètent à l'abattoir, vous voulez dire ?
Ils achètent, ils commandent à des maquignons qui se trouvent à l'abattoir, par exemple, qu'une partie de l'animal et non la bête entière. Ça, je trouve ça déjà dommage. Et après, un vrai boucher, ce qu'on entend souvent, c'est l'effet de mode de faire rassir et tout ça. C'est pas un effet de mode,
c'est quelque chose qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rassir, affiner, c'est faire maturer la viande, c'est garder au moins la viande, on va dire, 3 semaines, 1 mois avant de la mettre en vente. Mm-hmm. Le but est d'attendrir la viande.
Ouais.
La viande devient plus tendre, beaucoup plus goûteuse. Parce que le fait que l'eau du muscle va sortir au fur et à mesure. Et c'est pas un effet de mode, c'est un procédé qui existe depuis la nuit des temps.
D'accord, voilà. Ok. Et c'est vous ce que vous faites?
C'est ce que je fais, voilà. Moi, je prends que des bêtes entières. Directement chez des éleveurs.
Chez des éleveurs, voilà. Ok, vous n'allez pas dans les abattoirs.
Après, ça passe obligatoirement dans les abattoirs.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que, voilà,
bien sûr.
Par rapport à l'hygiène. Mais j'achète en direct chez des éleveurs que je connais. Je travaille avec une dizaine d'éleveurs maintenant depuis 5-6 ans.
D'accord, ça veut dire que vous avez donc dans un premier temps noué des relations privilégiées avec des éleveurs.
Voilà.
Vous êtes allé les rencontrer, vous leur avez expliqué votre démarche.
Tout à fait. En premier, je leur posais des questions par rapport à l'alimentation des bêtes. Par rapport, déjà, j'allais voir des éleveurs par rapport à certaines races en particulier. Parce que je ne veux pas faire n'importe quelle race. Et après, du coup, maintenant que ça fait longtemps qu'on se connaît, du coup, j'y vais plus trop parce que déjà, j'ai plus forcément le temps d'y aller. Mais vu qu'ils savent très bien ce que je veux comme type de bête, dès qu'ils en ont une qui est prête, ils me téléphonent et ils me disent que dans 15 jours, si tu la veux... Il y a une bête qui est prête.
D'accord, ok. Vous avez créé votre réseau.
Tout à fait.
Revenons à vos origines. Vous avez commencé à travailler à la boucherie à quel âge et comment vous vous êtes formé?
J'ai commencé la boucherie à 16 ans, âge de CAP.
Alors c'était un choix, je vous pose la question. Volontairement, c'était un choix où on a dit, bon, l'école Bertrand, voilà, ça ne t'intéresse pas trop, tu vas faire boucher.
Mais en sortant de troisième, j'ai fait une seconde générale parce que je ne savais pas du tout quoi faire, comme pas mal d'élèves, je pense, à cet âge-là. Et j'avais plus du tout envie d'aller à l'école, donc du coup, mes parents, pas pour me punir, mais pour essayer de me trouver une voie, ils m'ont envoyé chez la famille Garcia, qui sont aussi au marché Victor Hugo. Mais du coup, là, j'étais...
Nous avons reçu, d'ailleurs, dans Le Goût d'entreprendre.
Ok, ben voilà, là, j'étais avec Guy Garcia, donc le frère de Gérard qui est à la loge. J'étais au labo de fabrication à Castelnau. Donc, toutes les vacances scolaires, j'étais là-bas, ça m'a vachement plu. Et du coup, il m'a envoyé chez un ami à lui qui était boucher.
Ouais.
Pour voir si je préférais le côté soit la charcuterie, soit la boucherie, qui est quand même complètement différent. Et il se trouve que j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé la boucherie, quoi.
D'accord.
Donc, du coup, c'est parti comme ça.
Donc, c'était vraiment un choix.
C'était vraiment un choix.
Ouais, ouais. Voilà. C'est un peu ce que vous pourriez recommander aussi aux jeunes aujourd'hui. Vous avez été mis en immersion?
J'ai une immersion complète parce que je suis passé de seconde générale où je travaillais plus du tout. Et voilà. À 70 heures semaine en boucherie.
Ouais.
Et malgré les heures de travail et tout ça, ça m'a vraiment plu.
Ouais, et vous êtes dit, c'est ce que je veux faire.
C'est ce que je veux faire. Putain.
C'était l'élément déclencheur.
Tout à fait.
Parlez-nous ensuite de votre journée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être boucher? C'est-à-dire, on se lève tôt quand même, puisque vous êtes dans les loges tous les matins, ou presque.
Je suis au marché Victor Hugo toutes les matinées. Donc, il faut savoir qu'un marché, ben, le but d'un marché, c'est que le matin, donc il ne faut pas arriver à 10h, sinon il n'y a aucun intérêt.
C'est ça.
Donc, je fais partie des gens qui arrivent les premiers. Moi, je commence ma journée, j'arrive au marché à l'heure d'ouverture du marché, à 4h30 du matin, où je désosse, je coupe, je mets en rayon pour que le rayon soit prêt sur les coups de 7h, 7h30, quand les premiers clients arrivent, clients professionnels et clients particuliers.
Ouais. Vous êtes formé, vous avez passé un
CAP, CAP 2 ans et un brevet professionnel pendant 2 ans aussi.
Un BP, pour devenir boucher professionnel.
Mais CAP suffit, mais j'avais quand même envie de pousser un peu plus.
Ouais, d'accord. Voilà. Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise ?
Là, au marché, on est 3, donc moi et 2 ouvriers. Mm-hmm. Et à la boutique, on est 4, donc moi, mon associé Julien, qui était mon ancien ouvrier de la loge, mm-hmm. du marché, un apprenti et Victor, un autre ouvrier.
D'accord. Voilà. Alors, est-ce que le boucher est un peu bousculé aujourd'hui par les différentes crises alimentaires qui émaillent l'actualité, hein, que ce soit en France ou en Europe? Est-ce que ça, vous l'avez vécu, vous l'avez senti? Est-ce que les clients vous posent des questions, sont inquiets parfois?
Alors, moi, je ne l'ai pas ressenti du tout. Deux, trois clients qui m'ont posé des questions par rapport à la provenance et surtout où étaient abattues les bêtes.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
Parce
ouais.
qu'il y a certains abattoirs ouais. qui sont couchés d'une croix rouge. Mais moi, j'ai vraiment pas été touché ni par l'effet vegan, ni par la consommation, parce que les gens reviennent de plus en plus à la qualité.
C'est ça.
Et non à la quantité. Donc, du coup, ils consomment beaucoup moins. Mais quand ils veulent manger du bon, ils savent où aller. Donc, moi, je n'ai pas été touché par ça.
Voilà, mais vous avez vu évoluer la consommation. On disait tout à l'heure en préambule, on consomme encore de la viande, ouais. certes moins, mais de meilleure qualité,
tout à fait. Ouais, c'est
de
ça.
Façon éco-responsable, enfin, quelque part, ou mais, responsable.
Oui, responsable déjà par rapport à la... Il ne faut pas tuer de trop, de plus qu'on a besoin des animaux, ça ne sert strictement à rien. Je pense que c'est de là qu'est parti aussi l'effet vegan, mais,
ouais, tout à fait.
Mais non, moi je l'ai vu.
Et les maltraitances animales également.
Et la maltraitance animale aussi, bien sûr, ouais. Ça va, ça je le comprends tout à fait. Et non, moi je l'ai vu parce que j'ai commencé, ça fait 14 ans, et c'est la consommation il y a 14 ans en arrière, déjà c'était pas la même, ils consommaient quand même un peu plus de viande les gens.
Ouais, ouais,
voilà,
ouais.
C'était, on va dire, un gigot pour 5 personnes, maintenant c'est un gigot pour 8, quoi. Ils en mangent moins, quoi.
Ouais, moins souvent.
Moins souvent, oui.
Mais par contre, on va revenir voir son boucher et puis on va lui demander des conseils, on va s'informer. Est-ce que le consommateur est curieux ?
Ah, très curieux, par contre. Il veut savoir d'où ça vient. C'est même un client sur 3 qui veut savoir le nom de l'éleveur.
Ah oui.
Mais c'est bien. C'est bien, au moins, ça montre qu'on fait un bon travail derrière, quoi.
Ouais, ouais. Est-ce que ça vous pousse, vous aussi, à aller plus loin en termes de qualité ?
Ah ben, d'être toujours au top, c'est important. Et du coup, ça nous maintient un peu éveillé, quoi. Mm-hmm, pas se reposer sur ses lauriers, c'est bien.
Ça vous bouscule, oui, aussi.
Ouais, carrément. Ouais.
Est-ce que les prix ont évolué ?
Ben, moi, ça fait plus de 5 ans que j'ai mon entreprise au marché, un an et demi à Rue des Filatiers. Et en 5 ans, moi, j'ai pas changé les prix. Zéro. Il n'y a eu aucune évolution de prix. Parce que j'achète des bêtes entières chez des éleveurs directement. Alors, les prix, ça en fonctionne des éleveurs. Donc, moi, je n'ai pas eu une évolution par rapport aux éleveurs. Mais c'est vrai que si on fait du rachat, comme pas mal de bouchers toute la France, il y a eu pas mal d'évolution des prix. Donc, les prix dans pas mal de boucheries ont évolué, quoi.
Et pourquoi vous avez choisi, vous, justement, de travailler avec la bête entière ? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est, le métier, c'est ça.
Ben, c'est pour le respect de l'animal, quoi.
Découpe,
parce que tuer une bête et en prendre que la moitié qui nous intéresse le plus, moi, je trouve pas ça logique et il y a zéro respect envers la bête qui est morte, quoi. Et le métier de boucher, c'est de travailler des bêtes entières comme il se faisait 40 ans ou 50 ans en arrière où ils n'avaient pas le choix. Il fallait, pour avoir du bœuf ou de la vache, eh bien, il fallait tuer une bête. Donc, ils n'allaient pas jeter la moitié qu'ils n'allaient pas
c'est
utiliser.
C'est ça, ouais, tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on parle d'emploi tout de même, parce que c'est un métier qui a quand même souffert ces dernières années. Ça va mieux, ça reprend un petit peu, mais spontanément, j'ai envie de dire, on ne dit pas à un jeune aujourd'hui qui sort de l'école, tu vas faire un super métier, tu vas être boucher. On ne lui dit pas spontanément.
Non, on ne lui dit pas parce que c'est un métier vraiment qu'il faut avoir essayé au moins pendant 1 ou 2 mois, je pense, pour voir s'il nous plaît quand même, parce qu'il y a quand même des contraintes.
Ouais.
Il y a de très grosses qualités dans ce métier-là, mais il y a quand même des petites contraintes qui ne sont pas à négliger. Et ce n'est pas tant la formation jeune, comme je l'ai faite, moi, à 16-17 ans, commencer un CAP à 16 ans. C'est beaucoup, beaucoup de reconversions.
Ah oui.
Là, j'ai vraiment l'exemple type, c'est que en tout, si je mélange les deux trucs, les deux boucheries, on est 7, et sur les 7, j'étais le seul à avoir fait un cursus standard.
D'accord.
Après, c'est 6 reconversions.
6 reconversions, c'est intéressant. Ouais. Alors, ils viennent de quel secteur,
le premier ouvrier que j'ai eu, Julien Briand, qui était ouvrier chez moi à la loge et maintenant qui est mon associé à la boutique, c'est un ancien marketeur, sculpture sur bois et sur plastique. j'ai embauché son frère Kevin qui est avec moi à la loge, qui était paysagiste et coureur.
Ouais. J'ai
Maxime à mi-temps à la loge, moi qui est rugby semi-pro, donc c'est pour ça qu'il est à mi-temps, mais sinon il était dans le mode de son oncle, un élevage de bovins.
Ouais.
Donc c'est pour le reprendre plus tard, donc lui on va dire que c'est la reconversion la moins mais qui se rapproche le plus du métier de boucher. Et Alexis qui était chef dans le BTP.
Ah oui, d'accord, voilà. D'accord. Donc ce sont des gens qui sont venus à ce métier par envie, par passion.
Par envie, parce que je pense que les petits plaisirs de la vie aujourd'hui, pour pas mal de personnes, c'est quand même la gastronomie, aller au restaurant, faire des repas entre amis et tout ça. Et c'est vrai que le métier de boucher est devenu vachement à la mode. Et on voit pas mal de boucheries qui ressemblent un petit peu à des bijouteries, choses comme ça. Donc je pense que ça a attiré pas mal de personnes.
Ah oui, d'accord. Il y a 4000 postes tout de même qui sont à pourvoir en France. Ça veut dire que bon, ça progresse, mais il y a encore des ouvertures possibles.
Oui, oui. Il manque sacrément de bouchers. Je crois qu'il y a 2 ans en arrière ou 1 an en arrière, je crois qu'il y avait 50 000 postes de bouchers vacants sur toute la France.
Ouais,
donc, du coup, 4000, c'est pas beaucoup, mais il y a une réelle progression quand même. Et ça,
c'est positif.
C'est encourageant.
Et sachant qu'un professionnel sur deux va partir à la retraite en 2020. Donc, il va y avoir là des ouvertures de postes.
Des ouvertures de postes, oui, carrément.
Le salaire moyen d'un boucher débutant, on va dire, quelqu'un qui est salarié.
Qui est salarié, qui sort d'un CAP de 2 ans, on va dire, quand il rentre dans la vie active, le monde de la boucherie, en tant que couvrier, c'est un salaire moyen, on va dire que c'est aux alentours de 1600 euros.
En net.
En net, oui.
En net,
oui.
Ouais. Oui, d'accord.
Net.
Ce qui est correct.
Ce qui est correct. Il y a, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des horaires qui sont un peu plus lourds.
Bien sûr, bien
voilà.
sûr.
Mais à part quand on travaille dans une grande surface, c'est du 39 heures, on n'est pas forcément obligé de commencer très tôt. C'est correct. 1100 euros, je trouve que c'est correct pour 39 heures.
En début de carrière.
En début de carrière.
Vous restez avec nous, Bertrand Marty. On se retrouve tout de suite. On parlera notamment de l'attractivité des centres-villes avec les petits commerces qui reviennent dans le centre de nos villes.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence et seconde partie de cette émission. Nous sommes en compagnie de Bertrand Marty, qui est un boucher installé à Toulouse. Et Jean-Marc Fontaine vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Doris et bonjour Bertrand.
Bonjour.
Alors Jean-Marc, à table.
Allons-y alors. Vous avez dit tout à l'heure que le regain d'intérêt pour le végétarisme, voire le végétalisme, auquel s'ajoute une certaine fronde des défenseurs des droits des animaux contre les boucheries, ne vous ont pas trop affecté, finalement, dans votre activité. Est-ce qu'on pourrait dire que, le plaisir gustatif que vous proposez prend le pas sur une certaine culpabilité de consommer de la viande, surtout quand elle est préparée dans un labo?
C'est ça. Comme on l'a dit dans l'émission, en début d'émission, déjà, les gens se tournent beaucoup plus vers la qualité et non la quantité. Donc déjà, ça c'est un bon point. Et le fait que j'ai pas été touché par
ces
phénomènes.
Tout à fait. C'est qu'il y a un suivi de l'éleveur jusqu'au boucher. Il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. C'est le seul intermédiaire qui est, c'est moi, derrière l'éleveur. Donc ça, les gens, ça les rassure vachement.
La transparence, ça leur plaît?
Ah, complètement. Moi, chaque semaine, il y a le nom de l'éleveur, le nom de la race, l'âge qu'elle avait, quand est-ce qu'elle a été abattue. Il y a, n'y a rien qui est caché, quoi.
Vous n'avez pas été attaqué, entre guillemets, sur les réseaux sociaux
J'ai eu zéro, alors que j'ai monté avec ma compagne un site internet. On se sert pas mal de Facebook, on fait des publications
boostées. Oui, vous êtes sur les réseaux, bien sûr. Ouais.
Par contre, le site internet, lui, vu qu'on fait des publications boostées sur toute la France, par contre, là, c'est tous les jours, ma compagne répond à des véganes, à des personnes qui ne sont pas contentes, qui ne comprennent pas pourquoi. Il y a des Montbéliardes qui sont élevés dans le Tarn, par exemple. Plein de choses, mais sur la loge et sur la boutique, j'ai eu aucun commentaire végan. Zéro.
Jean-Marc, une autre question.
Alors, on a parlé des producteurs, justement. Est-ce que mettre en œuvre et affiner différemment la viande implique aussi un élevage différent de l'animal? C'est-à-dire que pour obtenir le résultat que vous avez, est-ce que, nécessairement, vous travaillez spécifiquement avec les producteurs pour un élevage différent? Alors, j'imagine la nourriture bio, peut-être, sans antibiotiques, les bêtes dans le pâturage. Est-ce que le succès rencontré par vos produits incite les producteurs à faire différent, mieux et à améliorer la qualité?
Mais c'est moi qui les ai choisis directement par rapport à la façon qu'ils avaient de travailler. Parce que il faut. Moi, je voulais les points les plus importants. Moi, je travaille pas de bio forcément, mais parce que déjà, ça coûte cher à l'éleveur de rentrer dans le terme bio. Ça coûte très cher à l'année. Mais il y a aucun pesticide dans leur champ. Les bêtes, elles sont tout le temps dehors. Ils les rentrent que le soir et même des fois pendant 6 mois, elles restent dehors en pâture. Elles mangent que de l'herbe toute leur vie. Et moi, le critère aussi que je voulais, c'est que je voulais des bêtes, ce qu'on appelle mixtes. Je fais pas de race à viande, en fait. Parce que les races à viande, c'est relativement maigre parce qu'ils les tuent jeunes. Ils les tuent à 2, 3, 4 ans. Parce qu'ils n'ont pas de revenus avant, les éleveurs. Donc, ce qui est compréhensible. Moi, je fais que les vaches mixtes, en fait, ce qu'on appelle les vaches mixtes, c'est des vaches qui font du lait au départ. Donc, il y a un revenu pour l'éleveur. Et qui sont destinées à la viande après passer 6, 7 ans. Donc, c'est des viandes et des bêtes qui sont engraissées naturellement, sans qu'on les pousse avec de l'ensilage. Donc, tout ce qui est ensilage, ça, je ne veux pas. C'est de la farine de céréales et tout ça. On a le droit en France, hein, c'est pas mauvais, mais moi, je voulais zéro ensilage pour mes bêtes. Hein, et les bêtes que j'achète à ces éleveurs-là, elles ont entre 7 et 10 ans. Donc, elles ont eu une belle vie, elles sont engraissées de façon naturelle, elles mangent que de l'herbe.
Voilà. Alors, nous parlions des réseaux sociaux tout à l'heure. Commander un pavé de viande de 300 ou 350 euros sur Internet, est-ce que ce n'est pas réservé à une catégorie de clients, on va dire, aisés financièrement?
Non, pas du tout, parce que c'est tous les carrés qu'on a vendus, les carrés entiers sur le site. Chaque fois, ça vient, déjà, c'est pas mal de clients à Paris. Et c'est des amis, ils l'achètent entre eux, ils sont deux ou trois. Alors, c'est sûr que l'investissement au départ, il est quand même assez conséquent. Mais après, si le client, par exemple, il nous demande de le garder 45 jours, on va lui expédier en 45 jours, et il n'a pas payé la maturation. Et par exemple, une côte de bœuf prix moyen à Paris de maturée de 45 jours, c'est du 80-90 euros le kilo. Alors que là, il a payé 30-35 euros le kilo.
J'aimerais que vous reveniez justement sur ce phénomène de maturation. Vous dites, hein, sur votre site, viande maturée à la demande. La différence entre une viande maturée et une qui ne l'est pas, sur un plan gustatif.
C'est ni vice ni vertu, on va dire.
Ouais.
C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. C'est, en fait, le but de la maturation, c'est de faire sortir l'eau qu'il y a dans le muscle. Voilà. Donc, à partir de 35-40 jours, on va dire que le muscle a perdu entre 10 et 15% d'eau, selon l'animal. Donc, ça devient forcément plus goûteux parce qu'il y a moins d'eau à l'intérieur, beaucoup plus tendre. C'est le premier but de la maturation, c'est ça.
Voilà, d'accord. Et comme vous disiez tout à l'heure, oui, tous les bouchers ne le font pas.
Parce qu'il faut quand même un local assez grand pour entreposer, parce qu'il faut un roulement assez gros. Ça coûte forcément des sous, parce que pendant que la viande est dans le frigo, on ne la vend pas. Donc du coup, au niveau trésorerie, il faut avoir une trésorerie un peu plus conséquente, on va dire, pour pouvoir se permettre ce roulement-là. Et voilà, je pense que c'est les premiers points pour lesquels les bouchers ne le font pas tous.
Jean-Marc, notre question.
J'ai lu quelque part que vous étiez la seule boucherie à Toulouse où on pouvait trouver du bœuf de Kobe au Japon. Alors, Pourquoi aller chercher aussi loin ? Est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Finalement, quelle est l'empreinte carbone d'un pavé de bœuf qui arrive de Kobe ?
Je m'en doutais.
Pourquoi ne pas rester avec les producteurs locaux ? Vous disiez qu'ils travaillent beaucoup sur la qualité. Est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre la qualité du bœuf de Kobe ?
Vous avez raison sur ces questions-là. C'est possible. Là, il y a des élevages de bœuf japonais, de wagyu, ce qu'on appelle. Wagyu, c'est bœuf japonais. En France, on en trouve beaucoup au Chili, on en trouve beaucoup, beaucoup en Espagne, en Australie. Maintenant, il y en a un peu partout. Quoi. Ça s'est vraiment répandu partout. Après, je ne suis plus le seul à le faire. Moi, je n'ai jamais fait, par contre, de bœuf de Kobe. J'ai fait du bœuf de Kagoshima. En fait, il faut savoir qu'au Japon, ils appellent les vaches pas par le nom des races. Ils appellent les vaches par le nom de la ville qui a élevé l'animal. Mmh. Voilà. Donc, Kagoshima ou Kobe, c'est la même race. C'est juste qu'elle a été élevée de manière un tout petit peu différente et dans deux villes différentes. Mmh. Et c'est vrai que par rapport à la taxe carbone, c'est quand même énorme pour de la viande. C'est pour ça que j'en commande très peu, j'en commande qu'une fois par an. Parce que c'est quand même un produit qui est relativement exceptionnel. C'est différent, on peut même pas le comparer à de la viande. Pour moi, en texture, c'est un peu foie gras. Et foie gras, même les yeux fermés, des fois un petit peu, texture de Saint-Jacques cuite un peu, c'est très particulier. Et c'est un produit que je trouve vraiment exceptionnel, donc c'est pour ça que je me permets une fois par an de...
Le petit plaisir luxe.
C'est ça.
C'est ça. Comment vous imaginez les centres-villes dans les années qui viennent ? Parce qu'on voit que les petits commerces reviennent petit à petit dans certaines villes. En tout cas, c'est une demande des consommateurs. Les boucheries reviennent aussi. Elles se modernisent, les boucheries. Okay. Tant dans le facing que dans l'accueil. Comment vous voyez les choses évoluer ?
Et si ça pouvait déjà, comment je le vois, je ne sais pas, mais si ça pouvait évoluer dans ce sens-là et rester sur cette marche-là, ça serait bien parce qu'on on a vu qu'en l'espace de 2 ans à Toulouse, il y a 3 boucheries en plein centre, en hyper-centre qui ont ouvert. Et ça, c'est vraiment bien.
Ouais.
Chose qui avait disparu depuis une bonne quinzaine d'années. Et il y a plein de petits commerces de proximité qui se montent, des épiceries avec des légumes bio, des producteurs.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est vraiment très bien. Puis il faut arrêter de consommer dans des grandes surfaces qui, déjà, la qualité est moindre et surtout qu'elles sont pas moins chères que dans des marchés ou des commerces de proximité.
Voilà, vous voulez dire, par exemple, en allant au marché Victor Hugo, on s'y retrouve financièrement, que dans les grandes surfaces où on va avoir tendance à dépenser davantage.
Ouais, parce que c'est là où ils sont allés en grande surface, ils portionnent donc une barquette, on va dire, une barquette de, je dirais une bêtise, de lasagne, il y a marqué 500 grammes en petit, et il y a un prix qui est certes attractif, mais si on le reporte au kilo, c'est sûr que ça, je suis sûr que ça coûte plus cher qu'au marché. Quoi. C'est tout bête, mon exemple type, c'est les steaks hachés au kilo. Le week-end, c'est 4 steaks hachés achetés et le 5e offert. Ça descend le prix du steak haché à 10 euros le kilo. Il y a des clients, quand je leur dis que 5 steaks hachés de 150 grammes en tout, 5, ça fait 8 euros, ils regardent le ticket et ils se demandent s'il n'y a pas une erreur. Et c'est pour pas mal des commerçants, bons commerçants qu'il y a dans le marché Victor Hugo. On peut nourrir une famille de 4 personnes en viande pour vraiment pas cher. Quoi.
Ouais.
Faire des achats. Après, il faut aimer les abats ou faut aimer des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, mais le marché ne coûte pas cher.
Jean-Marc, une autre question.
Je voudrais revenir un peu à votre métier. Votre métier aujourd'hui fait appel à des compétences techniques, trouver des procédés d'affinage toujours plus performants, intéressants au plan gustatif, des compétences humaines, manager une équipe, on a vu, vous aviez 2 équipes, établir des relations de confiance avec une clientèle qui est de plus en plus grande, grâce à votre succès, et puis des compétences de gestion, développer une entreprise, investir, préparer l'avenir, etc. Alors j'imagine qu'en démarrant en 2014, vous n'aviez pas anticipé tout cela. Comment est-ce qu'on acquiert ces compétences, en particulier quand on travaille 12 heures par jour ? Et dans tout ça, qu'est-ce qui vous rend heureux ?
Déjà pour revenir à... Non, c'est vrai qu'en 2014, je ne m'attendais pas à avoir... Autant de clients devant ma porte. Et du coup, on fait des erreurs. On fait des erreurs de gestion énormes. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir quand même mes parents derrière et ma compagne qui m'accompagnait dans cette gestion-là de tout ce qui est papier et tout ça. Et c'est tout bête, mais c'est vrai que ça demande pas mal de temps en plus de l'heure passée derrière le comptoir. Quoi.
C'est ça.
Donc, déjà, ça, voilà, on apprend sur le tas comme pas mal de choses. Et après, je ne me rappelle plus l'autre.
Et alors après, on va terminer là-dessus, messieurs, parce que nous sommes un peu pris par le temps. Mais c'est vrai que ce serait... on aimerait bien vous entendre sur la question, mais qu'est-ce qui vous rend heureux tous les jours?
Qu'est-ce qui me rend heureux? De donner le sourire aux gens. En fait.
Ouais.
Et de voir que les gens, ils reviennent exprès sans forcément... ils ne viennent pas commander de la viande, mais ils viennent me dire que le steak qu'ils ont mangé la veille, ils ont fait 5 minutes de queue pour attendre, ça arrive souvent, pour juste me dire en fait que c'était l'un des meilleurs steaks qu'ils aient mangé. Quoi. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent, ils me disent on mangeait vraiment plus de viande du tout. Et il y a des personnes qui viennent, ils me disent ça fait 5 ans qu'on n'a pas mangé de viande et on en remange.
Et grâce à vous, on en remange.
Ouais. Et ça, c'est chouette.
Ouais,
de redonner le sourire aux gens et confiance surtout. Aux jeunes, ça c'est bien.
Dans la qualité, le bon produit.
Ouais,
et le bon professionnel également, parce que vous êtes un artisan.
Artisan boucher depuis 14 ans.
Et oui. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci Jean-Marc de nous accompagner tout au long de ces émissions. Merci à vous de nous écouter également. Continuez à nous envoyer vos messages par le site internet ou par mail entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.